J'invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc. Le thème a déjà été annoncé la semaine dernière parce que dans l'évangile de Luc, il y a une particularité au chapitre 8. C'est ainsi que nous avions introduit la chose la semaine dernière. Dans le chapitre 8 de l'évangile de Luc, il y a une succession d'histoires et notamment quatre histoires qui se suivent. Et les quatre histoires ont un point commun, c'est la notion de la peur. Voilà. Mais ces quatre peurs sont quatre peurs différentes. Et à chaque fois, nous en tirons les leçons. Et le grand thème de ces histoires, c'est ne craignez point, n'ayez pas peur. Amen. La semaine dernière, on avait vu la peur que les disciples avaient lorsqu'ils étaient sur cette barque. Ils pensaient mourir. Ils avaient la peur de mourir, de couler. Pourtant, Jésus leur avait dit, allons de l'autre bord. C'est pour ça que quand ils le réveillent, la première question qu'il leur pose, c'est, où est votre foi? Ils étaient perplexes, ils ne comprenaient pas le sens de cette question. Mais si le Seigneur dit une chose, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la tempête, même si on a l'impression qu'on va couler, c'est le Seigneur est avec nous dans notre barque et qui nous a dit qu'on irait de l'autre côté, on ira de l'autre côté. Amen. La peur dans les circonstances ne devrait pas nous arrêter. Ça peut souffler, ça peut se balader, ça peut être agressif. On peut avoir l'impression qu'on va mourir, on peut avoir l'impression qu'on ne va pas réussir, on peut avoir l'impression qu'on va droit à l'échec, on peut avoir l'impression que plus ça avance et pire c'est. Mais si nous avons une parole de Dieu dans notre vie, alors nous pouvons nous accrocher à elle parce que le Seigneur est celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Ce soir, on va voir une autre peur. C'est la peur de perdre quelque chose. La peur de lâcher prise. La peur de... Mais qu'est-ce qui va se passer? Luc, chapitre 8, on va faire cette lecture à partir du verset 26. Donc les disciples, après avoir... ils abordèrent dans le pays des Géraséniens. Donc là, c'est une fois qu'ils ont eu peur sur le bateau, là, ils arrivent. Et ils arrivent donc dans cette région de la Galilée. Verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville. Ok ? Un homme qui vient d'où ? De la ville. Qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Et il avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres, le cimetière. Hein. Donc le cimetière, il est forcément à côté du village, d'accord ? Verset 28. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait, regardez la force de cet homme, on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus demanda, « Quel est ton nom ?»« Légion, » répondit-il, « car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Et ils, les démons priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de cochons qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac, et ce, noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Mais incroyable ce verset 37. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait. Amen. Incroyable hein, comme histoire. Hein. Souvent, on connaît un peu cette histoire de manière un peu générale, mais en s'arrêtant un peu sur les détails, on dit, mais il y a plein de petites choses qui sont étonnantes dans cette histoire-là. Plein de choses étonnantes. Avant de rentrer dans le vif de notre soirée là et de voir effectivement la réaction et la peur de ces gens, il y a déjà deux petites leçons à tirer. Déjà, comme on avait raconté la semaine dernière, les disciples avaient eu une drôle de leçon. Jésus, les prenant en flagrant délit de frayeur, leur avait dit pourquoi, où est votre foi? Ils venaient d'une situation de frayeur, ils s'attendaient à mourir, ils s'attendaient à être coulés, et Jésus leur dit hop, arrêtez. Il leur apprend à canaliser leur peur. Il leur apprend, on l'avait déjà dit aussi, mais la peur, c'est un obstacle à la foi. Jamais Jésus ne permet à ses disciples d'avoir droit à la peur. Il sait que la peur existe, mais tout de suite, il les arrête. N'ayez pas peur, ne tremblez point. Et plein de situations, chaque fois que quelqu'un est dans la peur, tout de suite, Jésus lui demande de prendre une position spirituelle pour ne pas se laisser entraîner à cette peur. Ça, c'était la leçon théorique. Mais imaginez quand même la scène. Eux, ils viennent là d'échapper quasiment à la mort. Ils arrivent. Et essayez de vous imaginer. Vous arrivez dans un endroit. Là, vous avez un monsieur, tout nu, qui vient vers vous en criant, avec des chaînes qui sont défaites, et on connaît la réputation de ce bonhomme. Dans quel état d'esprit vous seriez? Paisible, tranquille, avec un petit sourire des bienvenus? Pas du tout. À peine est-ce qu'ils viennent de sortir d'une peur que déjà le premier pied qu'ils mettent par terre, ils voient déjà une situation où ils sont peut-être appelés à éprouver, à mettre en pratique cette résistance à la peur. Mais continuons. La deuxième situation de peur qui n'est pas forcément explicitée, mais qui peuvent quand même nous en dire long pour nous aussi, c'est la situation des démons. Vous avez vu ce qu'ils disent? Ils supplient Jésus de ne pas les tourmenter. Récemment, j'ai prêché sur ce thème-là en disant que des chrétiens ne font pas mieux que les démons. Eh oui, parce que les démons prient, et même il y a des démons qui ont exaucé. L'exaucement n'est pas un signe d'approbation de Dieu. Hein. Et là, les démons supplient Jésus de ne pas retourner dans la... Ils sont dans l'angoisse, parce que les démons eux-mêmes n'ont pas du tout envie d'aller en enfer. Vous vous rendez compte de ça? Les démons eux-mêmes ne veulent pas aller en enfer. C'est Jacques qui dit, vous croyez qu'il y a un seul Dieu? Les démons aussi. Et devant lui, ils tremblent. La question qu'on est à se poser, c'est, et nous? Si les démons eux-mêmes n'ont pas envie d'aller en enfer, et si les démons eux-mêmes sont dans l'appréhension, dans l'angoisse de ce rendez-vous terrible, est-ce que nous ne devrions pas aussi, nous, être un peu dans la peur, dans la crainte? Pardonnez-moi, je ne prêche pas la peur qui amène au paradis, ça c'est faux. Mais quand même, réfléchissons à nos péchés, réfléchissons à tout ce qui fait obstacle à notre foi. Réfléchissons à tout ce qui pourrait nous emmener en enfer. C'est par la foi que nous sommes sauvés, pas par les œuvres. Mais si nous avons des gens qui sont autour de nous, qui rejettent cette foi, qui rejettent cette grâce, Avertissons-les de l'horreur de l'enfer. Montre-leur que même les démons ne veulent pas y aller. Et si au moins la peur peut les amener à la repentance, si au moins la peur peut les amener à réformer leur vie, si au moins la peur peut les amener à se ressaisir, si au moins par la peur, ils peuvent commencer à trembler et se dire « Mais si les démons eux-mêmes ne veulent pas y aller, qu'est-ce que ça va être pour moi ?» Et si au moins ça peut les faire réfléchir, alors faisons-leur lire ce verset-là. La peur n'amène pas à la foi, mais au moins qu'elle nous amène à nous remettre en question. Mais revenons à notre histoire. C'est quand même une drôle de situation. Voilà que Jésus fait un miracle extraordinaire. Il délivre un homme qui était possédé depuis de nombreuses années. Un homme connu. Tout le monde le connaissait. Certains avaient déjà essayé de l'attacher parce qu'il devait faire du carnage, il devait faire des choses, peut-être faire peur. Alors on avait essayé de trouver une solution pour le canaliser, pour le maîtriser, mais rien n'y faisait. Il était là dans le désert, il allait et venait. Il était un personnage notoire dans le quartier. Jésus vient, il le délivre. On pourrait s'attendre à ce que ce soit la joie, à ce que sa famille se réjouisse, que ses parents se réjouissent s'ils les avaient encore. On pourrait s'attendre à ce que la ville entière, devant un tel prodige, mais c'est extraordinaire. On a trouvé celui qui a résolu le problème que personne n'arrivait à résoudre. Et au lieu de ça, ils vont dire à Jésus, va-t'en, va-t'en. Les gens allèrent voir ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils trouvèrent l'homme qui était là, mais ils furent saisis de frayeur. Et comme ils étaient saisis de frayeur, tous les habitants, tous de cette contrée, prièrent Jésus, drôle de prière quand même, hein, prièrent Jésus de s'éloigner de... Car, et le texte insiste au verset 36, car ils étaient saisis d'une grande frayeur. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils avaient peur? De quoi pouvaient-ils avoir peur en fait? Le danger, ce n'était pas Jésus, c'était ce démoniaque. C'est lui qui était puissant, c'est lui qui faisait du mal, c'est lui qui était agressif. C'est lui qui était animé de plusieurs démons, et on va voir quelle quantité. Mais pourquoi avoir peur de Jésus? La réaction est surprenante et nous laisse peut-être à réfléchir. On sait comment cet homme a été délivré. Et dans cette histoire-là, c'est vrai qu'il y a un hic pour quelques personnages de ce pays. Il y avait un troupeau de cochons. Et tout le troupeau de cochons a été perdu. Pour ceux qui travaillent dans le domaine, il paraît que cet été, on a négocié le prix du cochon. Mais là, il n'y avait même pas de négociation. C'était une perte sèche. C'est pas l'histoire d'un ou deux pourceaux. C'est pas seulement là... C'est tout le cheptel, c'est tout le troupeau qui a été perdu. Ce sont des années de travail. C'est un engagement. C'est peut-être des années de travail de perdu, des familles qui se sont retrouvées du jour au lendemain, d'une espérance glorieuse à la disette. Dans cette histoire-là, il y a une perte financière très importante. Et c'est peut-être ce qui explique la frayeur de ces gens-là. Parce que quelque part, que ce fou gâche toute sa vie, ça ne regardait que lui, mais au moins il ne dérangeait personne. Mais ce Jésus, il vient à peine de mettre le pied sur notre territoire que déjà, il nous fait perdre une perte sèche terrible. Et en se disant, en allant plus loin dans leur raisonnement, peut-être qu'ils se disent, si avec un seul démon, avec une seule délivrance, il nous fait perdre tout ça, mais qu'est-ce qu'on va perdre en plus? Vous comprenez la peur de perdre quelque chose? Si aujourd'hui on a perdu tout un troupeau, mais qu'est-ce qui va se passer si on le laisse faire? Peut-être même Allons plus loin. Que ces gens étaient dans la frayeur et qu'ils demandaient à Jésus de s'éloigner d'eux. Parce qu'ils n'avaient peut-être pas du tout envie que Jésus se rapproche d'eux et que Jésus mette le doigt là où il y a des problèmes. Un homme possédé d'une grande multitude de démons. Jésus lui dit, tu t'appelles comment? Légion. Légion, c'est quoi? C'est un groupe d'armées qui représentait combien de personnes? 5 000. Alors, même si c'est pas le chiffre réel, même s'il n'y a pas 5 000 démons, on comprend que cet homme était habité d'un grand nombre. Et allez, allons jusqu'au bout. D'un nombre surréaliste du nombre de démons qu'il puisse y avoir dans une personne. Mais dites-moi, les démons, ils viennent d'où? Dans les arbres, comme ça? On est possédé comme ça, en se promenant dans la rue, et hop, on attrape un démon? Il y a des problèmes de possession lorsqu'on touche aux choses occultes, lorsqu'on s'amuse avec eux, consciemment ou inconsciemment. Il y a des problèmes de possession lorsqu'il y a un rapprochement de notre âme avec les choses occultes. Et pour que cet homme soit rempli d'une légion de démons, on peut peut-être suggérer qu'il y avait un gros problème d'occultisme dans la région, pour qu'à lui tout seul, il y ait autant de démons dans sa vie. Et on peut comprendre pourquoi tous les habitants de la région commençaient à trembler. Parce que peut-être que dans cette région, l'occultisme était quelque chose de répandu, de fréquent. Et peut-être que cet homme n'était qu'un bouc émissaire de toutes ces mauvaisetés qu'il y avait dans cette ville et dans cette région. Si Jésus a fait ça avec lui, mais qu'est-ce qui va se passer avec nous? Il nous a fait perdre tout notre troupeau. Et s'il vient mettre le bazar dans nos affaires? Paul a eu un jour un problème comme ça. Il prêchait l'évangile. C'est en Actes chapitre 16 que vous pourrez lire ça. Et un jour, une dame le suivait. Il a discerné en elle un esprit de python, un esprit de divination. Il a chassé ce mauvais esprit.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, il a eu des hommes qui étaient contre lui. Parce que cette femme, par son travail d'occultisme, rapportait des sous, rapportait de l'argent. Et le jour où cette manne est partie, le jour où cette femme a été délivrée, le jour où elle n'avait plus ses pouvoirs de divination, voilà que c'était une rentrée d'argent perdue. Et voilà que ces hommes ont commencé à mal parler sur Paul, à le menacer et à le chasser.
Il y avait certainement dans cette région également des hommes et des femmes qui n'avaient pas du tout envie que Jésus s'approche trop près d'eux, parce qu'ils allaient peut-être perdre quelques intérêts.
C'est en l'évangile de Jean, chapitre 3, et verset 19, qu'il est écrit cela. La lumière, parlant de Jésus, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et là, on est en train de toucher du doigt le gros problème de notre société. On veut bien un Jésus qui aime, on veut bien un Jésus qui sauve, on veut bien d'un Jésus qui est mignon, mais on ne veut pas d'un Jésus qui vienne mettre la lumière dans nos ténèbres. On ne veut pas d'un Jésus qui vienne nous faire perdre nos intérêts. On ne veut pas d'un Jésus qui vienne mettre son petit grain de sel dans nos business, même si ça sent le vol, même si ça sent la corruption, même si ça sent l'occultisme, même si on sait que ces choses-là n'apportent rien de bon. L'homme s'y accroche parce qu'il préfère les ténèbres à la lumière. Quelle peur pourrions-nous avoir à ne pas laisser Jésus se rapprocher de nous? Quelle peur! Qu'avons-nous à garder? Quelle peur avons-nous? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose à retenir? Quelle peur! Une situation sentimentale! Car cela existe, des hommes et des femmes qui entendent le message de l'évangile, le message du salut, le message de la grâce, le message de la liberté! Et comment ils entendent le message de l'évangile? Ils entendent le message de la sanctification. Et là, ils sont en train de se dire, oui, mais si je me sépare d'un tel? Et ils ne sont pas rares, les gens qui mettent ici le pied dans l'église, qui entendent un message, le message du salut, mais dans leur cœur, ils savent qu'ils sont dans une situation d'adultère. Mais ils ne veulent pas faire le choix, parce qu'ils sont là, attachés à cette relation sentimentale. Mais il faut couper! Le message est clair! Sans la sanctification, pas de salut! Si l'homme qui vit dans le péché ne peut pas hériter de la vie éternelle.
Et devant un tel choix, certains se cramponnent à leur amour, à leur affection, à leur désir, à leur aventure amoureuse. On a beau leur dire que Jésus est la réponse, il y a un combat intérieur et ils s'accrochent, ils se cramponnent à leur situation sentimentale. Un conflit non géré, un manque de pardon. Mais oui, parce que l'évangile nous prêche. Le pardon, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père Céleste ne peut pas non plus vous pardonner. Alors on entend ça, mais dans le cœur il y a un conflit, parce qu'on sait à qui nous devrions demander pardon, et nous refusons de le faire. Et là on se cramponne à notre situation, à notre légitimité, à notre blessure, aux propos qu'on a entendus. Jamais je pardonnerai, à part que le Père Céleste entend ça, le Père Céleste voit ça. Et au bout d'un moment, le message ne rentre plus dans notre cœur, il ne fait plus d'écho, parce que notre cœur s'est endurci. Jésus ne peut pas rentrer dans un cœur si ce cœur-là n'est pas prêt lui-même à pardonner. Votre Père Céleste ne vous pardonnera pas si vous-même ne pardonnez pas. Quelle peur avons-nous de lâcher prise, d'abandonner nos blessures intérieures? Un mensonge, un vol, se cramponner encore à des situations cachées, pas vues, pas prises, personne ne le sait, mais nous on sait qu'on a volé, nous on sait que nous sommes dans un mensonge, nous entretenons quelque chose de malsain. Lâchons ces choses-là. Qu'importe si cela va écorner notre réputation, qu'importe si effectivement notre mensonge doit demain être dévoilé et peut-être être la risée de la famille, le risée du quartier, le risée au travail, peut-être effectivement que les foudres seront terribles, peut-être que les conséquences de notre aveu sera terrible, mais il sera libérateur. Ne nous cramponnons pas à tous ces péchés, à nos ténèbres, car toutes ces choses sont autant d'invitations à demander à Jésus d'aller ailleurs. J'ai connu cet homme qui était hanté par un meurtre qu'il avait fait, mais il ne voulait pas l'avouer, il ne voulait pas se livrer à la police, il ne voulait pas faire la démarche pour résoudre ce problème, donc il vivait dans cette culpabilité. Et là, il était là, souffrant intérieurement, il allait aux réunions, mais il n'y a rien qui passait, rien qui ne se passait. Et on se dit, mais comment ça se fait? Parce que cet homme savait qu'il avait commis un meurtre, mais ne voulait pas régler ce meurtre. Il ne voulait pas payer sa dette à la société. Nous devons être capables de lâcher prise. La peur de ce qui se passera, la peur de lâcher, la peur d'avouer. Comme cette femme qui était noyé dans l'occultisme, qui faisait toutes ses pratiques satanistes, qui faisait ses incantations, et qui venait à l'église, qui demandait la délivrance. Alors elle venait, on priait pour elle, elle sentait un soulagement. Et 2 semaines après, c'était les mêmes problèmes qui revenaient. Et quand on est allé la voir, elle gardait encore ses formules magiques, ses bougies qu'elle brûlait, et autres manières qui attirent tous ces mauvais esprits. Lâchons tout ça, lâchons. Christ est la solution, Christ est la délivrance. C'est le proverbe 28, verset 13, où vous pourrez lire que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Ça sert à rien de cacher nos fautes, ça sert à rien d'essayer de les garder, ça sert à rien de camoufler. Car celui qui les avoue et qui les délaisse, celui-là obtient miséricorde. Tout ce village des Géréziniens qui demandaient à Jésus de s'éloigner, ils étaient dans la terreur. La terreur parce qu'ils préféraient rester dans leur misère, ils préféraient rester dans leur faute, ils préféraient rester dans leur stratégie, ils préféraient rester dans leur business, ils préféraient rester dans leur occultisme, ils préféraient rester dans leur mensonge. Parce qu'ils avaient la peur que Jésus puisse y mettre de la lumière. Ils avaient peur de perdre de l'intérêt, ils avaient peur de perdre du bénéfice. En pensant à toutes ces situations, je me rappelais de cette jeune fille, effectivement, qui entretenait une relation d'adultère avec un monsieur, et elle a été convaincue de sa misère, convaincue de la nécessité d'abandonner. Elle se périssait intérieurement. Elle était en train de réaliser qu'elle était en train de se détruire dans cette relation-là. Alors je lui disais, mais il faut que tu arrêtes. Il faut que tu rompes. Il faut que tu prennes le courage de dire les choses et de vous séparer. Et cette femme de répondre, oui, mais c'est lui qui me paye mon logement. Si on se sépare, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ne nous rendons pas esclaves des hommes. Ne nous rendons pas esclaves de notre péché. Ne nous rendons pas esclaves de nos erreurs. Jésus est celui qui prendra soin de vous. Amen. Jésus est celui qui sera avec vous le jour où vous commencerez à marcher dans la sainteté, dans la vérité, dans la justice. Il y a un chant qui dit « Dieu est avec nous pour toujours ». Le problème de ce chant, c'est qu'il ne dit pas tout. C'est que l'Évangile nous dit que si nous demeurons avec le Seigneur, lui, il demeure avec nous. Si nous restons dans la vérité, dans la justice, alors lui demeure avec nous. Et c'est vrai, le Seigneur sera avec vous. Vous pensez aussi à cet homme. Un homme pour qui l'on priait. Il était atteint d'une maladie. Et on priait pour lui. Et puis, il n'y avait pas de guérison. Alors, on ne se pose pas toujours des questions, mais les circonstances ont fait qu'en discutant avec cet homme, alors qu'il réclamait la guérison, puis il ne la réclamait pas trop, c'était bizarre. Puis en discutant avec lui, en fait, il nous a avoué qu'il voulait la guérison, mais d'un autre côté, il ne souhaitait pas vraiment être trop guéri, parce que comme il était malade, il percevait des pensions, ça, il pouvait ne pas les travailler, il recevait une pension pour vivre tranquille, avec des systèmes pour payer. Quelle misère! Quelle misère de préférer la misère à la liberté! Mais Dieu connaît nos cœurs! Dieu connaît les méandres de nos réflexions! Dieu connaît que le chemin de la vérité est un chemin de sainteté et de justice. Ne nous cramponnons pas à notre misère. Tel autre qui n'osait pas s'engager avec Jésus, par peur de la réaction de sa famille. C'était un musulman. Il était touché. Il réalisait que lui-même n'avait aucune conviction, qu'il n'avait aucune relation avec Dieu. Il réalisait que sa foi religieuse n'était qu'une sorte d'adhésion, même pas intellectuelle. Il en faisait partie parce que ça faisait partie de la famille, parce qu'il était un descendant d'une grande famille d'imams. Et là, ce soir-là, il était touché par le message de l'Évangile. Mais il se disait, mais si je m'engage avec Jésus, ma famille me reniera. Ma famille me reniera. Ce sont des calculs seulement humains. Il vaut mieux être renié des hommes. Il vaut mieux habiter dehors. Et passer son éternité au ciel que de se cramponner à notre business, à notre occultisme, à la bonne réputation que nos collègues auraient, à un confort matériel. Et traîner tout ça jusqu'en enfer. Certains craignent la solitude, d'autres craignent l'insatisfaction, d'autres craignent le rejet, d'autres craignent l'incompréhension, d'autres craignent le vide que ce péché laisserait s'il l'abandonnait. Mais ne craignez point, c'est le message de Jésus, ne craignez point, n'ayez pas peur. Jésus n'a pas supplié ces gens de l'accepter. Les gens disent, s'il te plaît, va-t'en. Et nous, on l'a lu. Et Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Jamais Jésus ne vous suppliera. Comprenez ce soir que vous n'avez aucun intérêt à vous cramponner à votre misère. Mais lâchez-les ces misères, lâchez-les ces péchés, lâchez-les toutes ces mauvaises conduites, ces mauvaises attitudes, ces mauvais états de cœur. Ils ne vous apportent rien, si ce n'est que la mort, la déception, l'insatisfaction. C'est le diable qui vous fait croire que si vous délaissez ce chemin d'impureté, il vous manquera quelque chose. Mais il ne vous manquera rien, car en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement, nous dit l'Épître aux Colossiens. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Il suffit de tout lui abandonner avec sincérité et avec joie. Il y a même, dans cette histoire, un petit clin d'œil qui est très, très étonnant. Il nous est parlé que tous les habitants du pays des Géraséniens demandèrent à Jésus de s'en aller. Pourtant, Géraséniens signifie récompensés à la fin.
Étonnant, hein ?
Récompensés à la fin. Oui, c'est le message de l'Évangile. Tôt ou tard, nous sommes récompensés à la fin. Des bonnes œuvres de la vie éternelle, des mauvaises œuvres de la mort. Ils recevront leur récompense, ils recevront leur salaire. Mais il y a surtout un message d'espoir. Si seulement vous puissiez réaliser que l'abandon de vos péchés, l'abandon, le renoncement à toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu, seront pour vous une récompense certaine. Alors ce soir, vous pouvez venir à Jésus avec plein d'assurance. Je terminerai par un dernier verset de Luc, chapitre 17, verset 33. C'est Jésus qui dit que celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Comprenez bien que cette peur, la deuxième peur que nous venons de voir ce soir, la peur de perdre quelque chose n'a pas de sens. C'est le diable qui suscite cette peur. C'est le diable qui vous fait croire que si vous lâchez prise, vous allez perdre quelque chose et que vous avez quelque chose à craindre. Vous n'avez rien à craindre, car le principe avec Dieu est complètement l'inverse. C'est quand on donne qu'on s'enrichit. C'est quand on donne qu'on reçoit. C'est quand on lâche prise qu'on est libéré. C'est quand on donne à Jésus les choses que nous trouvons la vraie liberté. C'est quand on perd qu'on trouve. C'est quand on donne qu'on reçoit. C'est quand on lâche qu'on possède. Avec le Seigneur Jésus, il faut tout donner notre cœur, nos pensées, nos motivations. Il faut tout lâcher prise. Bien sûr, la chair, elle, est en train de créer la peur. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Ne craignez point. Qu'est-ce qui va se passer si je fais... Ne te pose même pas la question. Ne laisse pas tous ces raisonnements gagner ton cœur. Ne laisse pas ces raisonnements monter petit à petit dans ton cœur. Lâche! Et tu verras la main du Seigneur, amen. Si ta main est sur ta misère, si tu te cramponnes, le problème ne vient pas de Dieu, le problème vient de tes mains, le problème vient de ta peur. Vous avez vu comme quand on a peur, on est crispé. Que ce soir, nous puissions ouvrir notre cœur, lâcher prise. Que toutes ces peurs de perdre quelque chose soient anéanties. Que nous l'abandonnions, que nous laissions faire. Et le Seigneur agira. Amen. Que ce soir, personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne. Déposons à Jésus ce qui nous pèse. Déposons à Jésus. Pas pour ressortir avec. Hein. Déposer pour les abandonner. Amen.